101.5 FM dans l'émission à la découverte des plantes vagabondes proposée par le tiers-lieu Le Plantin à Écully. Cette émission est animée et écrite par Claudie, ingénieur paysagiste conseil. Chaque vendredi, père, partez à la rencontre d'une nouvelle plante sauvage pour connaître son histoire, son mode de vie et ses usages. Au mois de mai, elle illumine nos haies et fait le bonheur des butineurs dont le bourdonnement mêlé au chant des oiseaux interprète la symphonie printanière de la nature. Car oui, tout est musique si on y prête attention. Fermez les yeux et laissez-vous vibrer. Aujourd'hui, nos sens se réveillent pour l'aubépine ou Cratellus monogynum. Impossible au mois de mai de ne pas parler d'aubépine. Alors que les haies ont déjà verdi et que les jeunes feuilles referment la trame des cloisons végétales du bocage, la campagne s'illumine des milliers de fleurs de l'épine blanche, aussi justement nommée épine de mai ou bois de mai. Même si la floraison s'avance d'année en année, celle des aubépines reste un marqueur important de nos paysages. La famille des épines blanches fait partie des rosacées, à l'instar des rosiers, de l'églantier, de la ronce ou encore de l'épine noire, sa cousine. Son nom de genre Crategus vient du grec kratégos et signifie force, sans doute à cause de son bois dur. L'aubépine se présente sous forme d'un arbrisseau épineux, pouvant atteindre jusqu'à 10 mètres de haut et plusieurs mètres de large. Elle se développe naturellement dans les lisières, les haies ou les friches, dans des sols de préférence argileux et calcaires. Très rustique et peu exigeante, elle peut vivre plusieurs centaines d'années, voire plus, comme l'atteste le plus vieux spécimen de France à Saint-Marc-la-Futaie en Mayenne. De par sa croissance lente et son port ramifié, elle forme des haies infranchissables avec d'autres espèces épineuses comme l'épine noire, l'églantier et la ronce. Des clôtures naturelles d'une redoutable efficacité pour contenir les animaux de pâturage. Contrairement à l'épine noire, qui fleurit avant l'apparition des feuilles, les aubépines développent en avril de jolies feuilles au vert tendre, avec ses 3 à 5 lobes si reconnaissables. De mai à juin, les boutons floraux éclosent et d'innombrables fleurs blanches à 5 pétales offrent à nos narines leur parfum entêtant. À la fin du mois d'août, elles donneront naissance à de jolies baies rouges ou senelles qui coloreront tout l'hiver la végétation. Les baies rouges vives attirent les oiseaux, qui les apprécient tout particulièrement car elles assurent leur survie hivernale. En contrepartie, ils disséminent les graines par leur déjection. Il existe de très nombreuses espèces d'aubépines dans le monde. En France, les plus fréquentes sont Crategus monogyna, l'aubépine commune, dont les fruits portent une seule graine, et Crategus laevigata, l'épine blanche, plus précoce et épineuse. Cependant, il est difficile de distinguer les différentes espèces car elles s'hybrident ensemble. Si, au cours de vos promenades, vous tombez sur des fruits plus gros et charnus, vous avez sans doute trouvé un pied d'azérolier, une autre espèce recherchée pour ses fruits et qui porte le joli nom de poire d'oiseau ou poire du bon Dieu. Cette faculté à s'hybrider a permis de développer pour les jardiniers de nombreux cultivars sans épines et aux floraisons colorées, disponibles chez les pépiniéristes et jardineries. Il faut savoir que la vente d'aubépines sauvages est réglementée, car elle est très sensible au feu bactérien. Cette maladie bactérienne touche aussi les fruitiers de la même famille, et une vaste campagne d'arrachage des haies d'aubépines a été conduite pour limiter l'expansion de la maladie. Aujourd'hui, les espèces commercialisées et multipliées en organismes agréés sont résistantes et les haies ont à nouveau repris des couleurs pour la plus grande joie de nos jardins et de nos champs. Allez, il est temps de faire une pause en chanson avec une reprise du Bois Joli « J'ai ligné ma botte » par Alain Souchon. «
jolie, il y a des violettes, de l'aubépine et de l'églantier. J'ai lié ma botte avec un brin de paille, j'ai lié ma botte avec un brin d'osier. Le soir j'y vais pour y faire la cueillette, en gros sabots et en tablier.
Dans le langage des fleurs, l'aubépine symbolise la prudence et l'espérance. Depuis l'Antiquité, l'aubépine est liée à l'innocence et la pureté virginale. Chez les Grecs, les Romains et ensuite au Moyen Âge, elle est un gage de bonheur dans les cérémonies de mariage. Les chrétiens, eux, l'associent à la Vierge Marie. La légende dit que la couronne du Christ serait en aubépine. Le bois d'aubépine sanctifié éloigne le diable. Dans les campagnes, on déposait dans les combles des habitations le premier rameau fleuri pour protéger de la foudre et des orages. Le pouvoir de l'aubépine s'étend à la sorcellerie. Une branche épointée permettait de transpercer le cœur des vampires et d'éloigner sorcières et lutins. L'aubépine est considérée depuis des siècles comme un arbre protecteur. Chaque 1er juin, les Romains clouaient une branche d'aubépine sur les portes de leurs étables pour en chasser les esprits des maladies. Jusqu'au XVIIIe siècle, il existait un rituel en Europe selon lequel il fallait se faufiler ou ramper sous une arche de branches d'aubépine pour rester en bonne santé. L'aubépine fait l'objet de nombreux poèmes et Proust l'évoque longuement dans son célèbre roman « À la recherche du temps perdu » dont voici un extrait. Je revenais devant les aubépines comme devant ces chefs-d'œuvre dont on croit qu'on saura mieux les voir quand on a cessé un moment de les regarder. Mais j'avais beau me faire un écran de mes mains pour n'avoir qu'elles sous les yeux, le sentiment qu'elles éveillaient en moi restait obscur et vague, cherchant en vain à se dégager, à venir adhérer à leurs fleurs. Elles ne m'aidaient pas à l'éclaircir, et je ne pouvais demander à d'autres fleurs de le satisfaire. L'utilisation de l'aubépine par les hommes remonte à la nuit des temps. Des fouilles archéologiques ont mis au jour des jarres remplies de baies d'aubépine datant du néolithique. Le bois d'aubépine très dur était prisé des tourneurs et sculpteurs. On en confectionnait des bâtons de marche, des outils, des tonneaux et des petits objets du quotidien comme des boîtes ou des peignes. C'est aussi un excellent bois de chauffage. Dans les campagnes au Moyen Âge, on fabriquait de la farine, des sénelles, les fruits de l'aubépine, pour en faire du pain, comme de nombreux autres fruits sauvages d'ailleurs. En arboriculture, l'aubépine sert de porte-greffe aux néfliers et aux poiriers, ainsi qu'à d'autres espèces ornementales. Il est temps de retrouver l'interview de Laurent, réalisée par Christelle.
Bonjour Laurent. Tu es enseignant-chercheur à l'Institut Agro à Angers. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous raconter un petit peu ton parcours et en quoi consiste ton métier ?
Alors moi, je suis tombé dans la pension magique du végétal quand j'étais tout petit. J'ai eu la chance de grandir dans les vergers de mon grand-père, pommiers, poiriers, et donc ça m'a beaucoup orienté mes choix, notamment d'études, puis professionnelles. Donc j'ai obtenu un doctorat en biologie des organismes en 2001, en collaboration. C'est un doctorat que j'ai réalisé en collaboration avec une entreprise de création de nouvelles variétés de roses, meilleur international. Et suite à cette collaboration, j'ai été recruté comme sélectionneur de roses de jardin. Et donc j'ai eu la chance de créer de nouvelles variétés pendant une dizaine d'années. Et suite à ce travail, donc j'ai postulé pour devenir enseignant-chercheur à l'Institut Agro à Angers. Donc un enseignant-chercheur en horticulture ornementale. Hein, donc je suis resté quand même très proche du monde des fleurs, de la floriculture. Ce qui m'a permis donc de transmettre toutes mes connaissances à mes étudiants. Donc là, aujourd'hui, je forme des ingénieurs en horticulture. Et en parallèle de ce travail d'enseignant, je suis aussi chercheur. Alors mes activités de recherche sont bien sûr centrées sur les problématiques de la filière d'ornement. Elles ont pour objectif d'aider nos amis horticulteurs à mieux produire. Et ce, de manière éco-responsable. C'est une forte attente sociétale, donc nos travaux sont là aussi pour aider nos acteurs de la filière à être plus performants et à être vraiment en adéquation avec les attentes sociétales.
D'accord. Très bien, c'est super intéressant. Alors, on l'a bien compris, le végétal est vraiment ton domaine. Et donc plus particulièrement les roses aussi. Et aujourd'hui, notre émission, nous parlons de l'aubépine. L'aubépine qui est de la même famille que donc la reine des fleurs qu'on peut considérer la rose. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton lien avec cette fleur et pourquoi elle te passionne tant ?
Alors c'est vrai que, comme je vous l'ai dit à l'instant, j'ai eu la chance de réaliser mon doctorat avec une grande entreprise de création de variétés de roses, connue mondialement, donc Meillant, de nouveau. Et c'est vrai que j'ai tout de suite été piqué par le virus de la rose dès mon doctorat, ce qui m'a permis, ils m'ont donné cette chance de devenir sélectionneur par la suite. Et là, c'est vrai que j'ai découvert le monde de la rose, qui est un monde magnifique, vraiment très intéressant. Et ce qui est très intéressant dans le monde de la rose, c'est ce côté, la grande diversité des formes, des couleurs, des parfums de rose. Et j'ai eu la chance de manipuler cette diversité pour créer une nouvelle variété, ce qui a été vraiment, dans mon parcours professionnel, un très important. Et que j'ai la chance maintenant de transmettre aussi à mes étudiants cette passion à travers mes enseignements. Et c'est vrai que ça transparaît, effectivement.
Ouais, ok. Bah, écoute, c'est vraiment génial. Enfin, je trouve ça passionnant, en effet. Et je trouve ça encore plus passionnant et intéressant le fait que tu transmettes tout ce savoir-faire à tes étudiants. Je te remercie beaucoup, Laurent, de ton témoignage. À bientôt.
Merci.
Vous êtes sur Radio G101.5 FM avec Claudie dans l'émission « À la découverte des plantes vagabondes » pour parler aujourd'hui de l'aubépine. Les propriétés thérapeutiques de l'épine blanche sont connues depuis l'Antiquité. Les feuilles, les fleurs et les fruits soigne la goutte et la pleurésie. Les Chinois utilisent l'aubépine dès 650 avant Jésus-Christ pour traiter les troubles cardiovasculaires. Vers le XVIIe siècle, on découvre en Europe leur pouvoir calmant, nerveux et tonique cardiaque. Ces propriétés ont été confirmées scientifiquement et récemment par des études. En phytothérapie, l'infusion de fleurs a un effet calmant et apaisant contre les insomnies et réduit la tension. À l'inverse, les feuilles sont tonicardiaques. Dans les traitements longue durée post-infarctus, l'aubépine montre son efficacité, avec une très bonne tolérance et pas d'effets secondaires. L'aubépine est aussi efficace sur les personnes sensibles aux ecchymoses. Elle agit sur l'irritabilité et les sautes d'humeur, les étourdissements, les bouffées de chaleur, en rééquilibrant le taux hormonal au moment de la ménopause. Plante du cœur et des émotions, c'est un excellent remède contre le chagrin et la tristesse. Outre ses vertus médicinales, l'aubépine est aussi une plante alimentaire. Les senelles se consomment cuites, car crues, elles sont moins goûteuses. On en confectionne des gelées, des confitures, une fois dénoyautées après cuisson. Elles parfument agréablement aussi les vins doux ou vins d'aubépine. Pour faire agrémenter un dessert de fromage blanc, enlever les pédoncules et placer les fruits dans une casserole, couvrir d'eau, porter à ébullition et faites cuire 5 à 10 minutes. Après cuisson, passez-les au moulin à légumes pour séparer les noyaux du jus. Incorporez le miel et jus de citron à la compote et mélangez au fromage blanc. Un vrai régal de vitamine C. Et des noyaux pour le café. Car les graines torréfiées à la poêle et concassées servent de substitut au café. Les jeunes feuilles se mangent crues en salade. Les feuilles plus âgées servent aux infusions ou à confectionner des vins cardiotoniques. Les fleurs à l'arôme d'amande parfument desserts, sorbets et liqueurs. Les boutons floraux se consomment comme les câpres. Vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. Bon, nous avons un peu de retard, mais on va mettre ça à jour. Vous pouvez écouter aussi tous nos podcasts de l'émission à la découverte des plantes vagabondes sur radio-g.fr. C'était Claudie sur Radio G 101.5 FM. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, vendredi 3 juin à 13h, à la découverte d'une nouvelle plante surprise.